Bon, eh bien, si vous voulez, récapitulons. On est arrivé hier à cette question qui reste une question ouverte, qui n'aura jamais probablement de solution. Les peuples ont des usages différents, les peuples ont des esprits différents. C'est lié à leur langue, c'est lié à leur tradition. Comment est-il possible pour nous d'imiter Ulysse et de connaître l'esprit d'autres peuples, l'esprit des Grecs d'il y a 3000 ans? Comment est-il possible de faire passer dans notre langue ce poème? Comment est-il possible de lui faire respecter nos usages, c'est ce qu'on a fait traditionnellement, l'écrire en alexandrin. Comment est-il possible de nous habituer à un autre usage? C'est ce que un certain nombre de traducteurs cherchent à faire aujourd'hui. Voilà des questions qui restent ouvertes. Bon, aujourd'hui, il me semble qu'un certain nombre de gens, enfin, il me semble, c'est visible, un certain nombre de gens sont frappés par ce tout petit détail, l'alexandrin compte 12 syllabes. L'épos, l'hexamètre rectiligne, comme on dit, compte tout à fait exceptionnellement 12 syllabes. Je ne sais pas combien il y en a dans les deux poèmes, mais ça doit se compter au maximum par dizaines. Généralement, le vers d'Homère fait entre 13 et 17 syllabes. 17 syllabes étant aussi un peu exceptionnel. Ben, ça fait tout de même une différence. Alors si on a en plus l'idée, un certain nombre de traducteurs autrefois s'en libéraient, si on a en plus l'idée d'essayer de faire correspondre un vers français à un vers grec, il faut bien essayer de chercher quelque chose de plus long. Mais on n'a pas encore trouvé. Une chose semble certaine, notre alexandrin est malgré tout terriblement lié à une pratique qui est en même temps une pratique écrite, et c'est ailleurs qu'il faudrait chercher. Du côté du roi Renaud, peut-être, mais allez trop. En tout cas, une chose est évidente, une chose est incontestable, le vers, ça se chante. La déclamation est une espèce de chant aussi, si l'on veut, mais tout cela est une affaire de voix, on ne cesse d'y revenir. Cette poésie est une poésie orale, beaucoup plus orale que beaucoup d'autres, et sans voix, elle n'existe pratiquement pas. D'ailleurs, Homère le savait très bien. Dans tout ce que nous venons d'entendre, il y a eu des voix magnifiques. Et je ne pense pas aux voix des Aèdes. Les voix magnifiques sont des voix de femmes. C'est une espèce d'obsession chez l'auteur de l'Odyssée. On arrive sur une île, on entre dans un jardin où il y a une assez belle végétation qui est éventuellement superbe. Enfin, il y a quelque chose de mystérieux dans cette île. Et au milieu de cette île, il y a un lieu fermé. C'est une caverne, c'est une maison. Et dans cette île, il y a une femme qui chante. Il y a la voix de Calypso, Opicale. C'est la fin d'un vers. Hein. Une belle voix, ça termine naturellement un vers, ça tombe. Il y a la voix de Calypso. Il y a la voix de Circé. Et il y a évidemment la voix des sirènes. Alors, la voix des sirènes, elle n'est pas enfermée dans une maison, ça ne fait rien. C'est une voix. Alors, je vais vous lire un bout des sirènes une fois de plus. Je vous ai lu les sirènes sous différents habits. Bien voilà un habit que j'aime beaucoup. Alors c'est de la prose, hein, je suis désolé. Et c'est un petit peu ancien. Pendant que je leur parlais ainsi, notre vaisseau, poussé par un bon vent, arrive à l'île des sirènes. Le vent s'apaise dans le moment. Les vagues tombent et le calme règne. Aussitôt, mes compagnons se lèvent, plient les voiles, reprennent leurs rames et font écumer la mer sous l'effort de leurs avirons. Je prends en même temps un grand pain de cire, je le mets en pièces avec mon épée. et tournant ces morceaux dans mes mains, je les amollis. La cire est bientôt amollie et cède à la force de mes mains et à la chaleur du soleil qui était fort grande. J'en remplis les oreilles de mes compagnons, qui après cela me lièrent par les pieds et par les mains au mât du vaisseau, et s'étant remis sur les bancs, ils recommencèrent à ramer. Quand notre vaisseau ne fut plus éloigné du rivage que de la portée de la voie, et que sans aborder, nous poursuivions notre route, les nymphes nous aperçurent, et aussitôt, élevant leur voix, elles se mirent à chanter et à me dire « Approchez de nous, généreuse Ulysse, qui méritait tant d'éloges et qui êtes l'ornement et la gloire des Grecs. Arrêtez votre vaisseau sur ce rivage pour entendre notre voix. Jamais personne n'a passé ces lieux sans avoir auparavant admiré la douce harmonie de nos chants. On continue sa route après avoir eu ce plaisir et après avoir appris de nous une infinité de choses, car nous savons tous les travaux que les Grecs et les Troyens ont essuyés par la volonté des dieux sous les remparts de Troie. Et rien de tout ce qui se passe dans ce vaste univers ne nous est caché. » Voilà ce qu'elles me dirent, avec une voix pleine de charme. J'en fus si touché que je voulais approcher pour les entendre, et que je fis signe à mes compagnons de me délier, mais ils se mirent à faire force de rame, et en même temps, Périmède et Eurylochë s'étant levés, vinrent me charger de nouveaux liens et m'attacher plus fortement. Quand nous eûmes passé ces lieux charmants, mais trop dangereux, et que nous fûmes assez loin pour ne pouvoir plus entendre ni les sons ni la voix de ces enchanteresses, alors mes compagnons ôtèrent la cire dont j'avais bouché leurs oreilles et vinrent me délier. » L'Odyssée d'Homère, traduite en français par Madame Dacier, Paris, 1716, tome 2, page 356. Bon. Madame Dacier. Moi, je suis ravi de cette traduction. Bon. D'accord, c'est une traduction en prose. Hein. C'est une traduction qui ne se prête pas à la mise en musique. Hein, qui se prête relativement mal. On la lit, on la déclame pas, si j'ose dire. Alors, vous avez remarqué évidemment son côté très poli. Approché, généreux judicieux. Tout même pas tutoyer un prince, même quand on est sirène. Cette dame a été un peu maltraitée. Traditionnellement, et en particulier parce que c'était une dame, bien entendu. Qu'est-ce que les dames peuvent se mêler de faire du grec et de traduire du grec, hein. D'autre part, elle défendait autant que possible, dans les écrits variés, l'excellence des anciens, à une époque où toutes sortes de gens qui n'y connaissaient rien, elle considérait qu'il fallait se libérer de ce joug. Elle écrit, c'est très drôle. C'est l'époque. Elle écrit un peu comme Perrault. Et Perrault, c'est son adversaire. Et Perrault était le défenseur des modernes. Perrault a dit des horreurs sur Homère. Et c'est Perrault, un des premiers à avoir inventé cette histoire sans laquelle Homère n'aurait jamais existé. Il serait simplement une collection de petits. Il disait de Pont-Neuf. Un Pont-Neuf, c'est une chanson qu'on chante sur le Pont-Neuf. Alors, Homère aurait pris des chansons qui traînent partout ailleurs, il aurait mis ça ensemble et puis ça aurait fait. Il n'y connaissait rien. Hein. Il ne savait pas un mot de grec. Hein. Il a eu quelques ennuis avec Boileau, avec Racine. Racine l'a pris un jour. Et le Perrault en question, je suis très important, une perruque énorme, le Perrault en question est devenu célèbre. Je pense que dans l'autre monde, là, chez Hadès, il ne s'en est pas encore remis. Parce qu'il avait fait des très beaux livres sur les parallèles des anciens et des modernes. Académicien, quelque chose d'important, il pensait que si nous connaissons Perrault, c'est à cause de peau d'âne, ça doit lui paraître bizarre quand même. Bon, alors, Madame Dacier, donc, a proposé cette traduction que je vous ai relue pour vous rappeler que les sirènes ont avant tout une voix. Et peut-être ont-elles une belle voix, parce qu'il y a de belles voix. Bien. Une voix ligurée, dit le texte. C'est une voix probablement haute et claire. Il n'y a pas de place pour les mezzo-soprano. C'est des soprano. Il n'y a pas de place. Bon. Le texte sur les sirènes est un texte qui a passionné des tas de gens parce qu'il est très ambigu. Le texte dit que le charme des sirènes tient essentiellement à la qualité de leur voix. il nous est extrêmement difficile de nous représenter ce qu'était pour Homère la qualité d'une belle voix. Bon, nous avons peut-être tendance à penser à des voix de cantatrices. Pour moi, la voix de Calypso, c'est la voix de Gudula Janowitz. Enfin, Gudula Janowitz est une cantatrice qu'on n'entend plus beaucoup depuis fort longtemps. C'est une voix. Oh, Elisabeth Schwarzkopf, si vous voulez. Enfin, c'est encore ma génération, tout ça. Ou bien, comment c'est le cas? J'ai oublié son nom. Anne-Sophie Koch, vous connaissez cette cantatrice? Je ne parle que des absentes. Hein. Bien, alors, le charme de la voix, le charme des sirènes tient au charme de leur voix. Tout le monde n'est pas tout à fait de cet avis. Un certain Cicéron, qui était un orateur, un homme politique et un écrivain prolixe du 1er siècle avant Jésus-Christ, une base de la culture classique, écrivant en latin, a un beau jour parlé de ce texte, qu'il a même essayé de traduire. Le petit discours des sirènes, il existe une traduction latine faite par le dit Cicéron, parce que Cicéron dit, Homère n'est pas fou, Homère sait très bien que le charme des sirènes ne tient pas seulement à leur à la qualité de leur voix, à la qualité musicale de leur voix, le charme des sirènes tient aussi à ce qu'elles sont instruites et qu'elles instruisent ceux qui les écoutent. Les sirènes ont un savoir peut-être faux, peut-être mensonger, mais elles attirent les voyageurs en leur promettant de leur apprendre quelque chose. Vous l'avez entendu, je reprends les paroles de cette dame. Jamais personne n'a pas saisi lieu sans avoir auparavant admiré la douce harmonie de nos chants. On continue sa route après avoir eu ce plaisir et après avoir appris de nous une infinité de choses, car nous savons, alors tous les travaux que les Grecs et les Troyens ont essuyés par la volonté des dieux, etc. Nous savons tout ce qui se passe dans ce vaste univers. Rien de tout ce qui se passe dans ce vaste univers ne nous est caché. Alors, ça vaut pour les sirènes, mais finalement, ça vaut probablement pour toute espèce de poète. D'ailleurs, les discours qu'Ulysse tient à Démodocos, éventuellement ceux que Télémaque tient à Phémios au début, vont dans le même sens. Le poète est un homme extraordinaire parce qu'il a un formidable savoir. Alors plus tard, revenons à Hérodote si vous voulez, dont j'ai parlé en commençant il y a quelque temps, plus tard on a considéré que Homère représentait avec Hésiode tout le savoir possible, et notamment tout le savoir possible sur le monde des dieux. Alors vous avez des gens qui allaient beaucoup plus loin, qui vous disaient qu'on apprend dans Homère absolument tout, on apprend tous les arts, tous les arts des métiers, on apprend le métier de médecin, on apprend le métier de constructeur de bateaux, etc. Bien. Il y a un très très joli texte, mais très très joli, dans Platon, un texte qui s'appelle Ion. I-O-N. C'est un tout petit texte, hein, qui est un dialogue entre Socrate et un spécialiste de la déclamation d'Homère. Hein. Et le texte est très très beau. Ion est un peu... Bon, il est tellement plein de son sujet qu'il raconte un peu des sottises. Enfin, il est convaincu que Homère sait tout ce qu'on peut savoir. Hérodote, qui est un peu plus malin, et qui se méfie, Hérodote se contente de dire « C'est Homère, avec Hésiode, qui nous a appris les nom des dieux. » Bien entendu, ce n'est pas vrai. Il y a très longtemps que les Grecs respectaient un certain nombre de dieux. Vous savez, depuis qu'on sait déchiffrer le mycénien, c'est-à-dire la langue qui s'est écrite dans un alphabet, non, un mode d'écriture perdu depuis, et qui s'est écrite avant la guerre de Troie, disons, on sait qu'on a retrouvé là-dedans des noms de dieux qui sont toujours vivants dans la Grèce du siècle d'après. Oui, on sait écrire le mycénien, mais malheureusement, tout ce qu'on a comme texte, ce sont des contes. Des contes, j'entends COMPTES, Donc on sait qu'il
a fallu fournir tant de vaches pour les sacrifices au temple du dieu.
On n'en sait pas davantage. S'ils avaient des aides, et pourquoi n'en auraient-ils pas eu, ces aides-là, se gardaient bien d'écrire. C'est un peu dommage, incontestable. Bien, alors, l'idée est que Homère et Hésiode sont la base de ce que nous pouvons savoir et enseigner sur les dieux. On a affaire à un monde qui, pour nous, est très étrange. C'est un monde où le poète est divin, le poète parle des dieux, et pourtant, il n'y a pas de révélation. L'Iliade et l'Odyssée et la théogonie d'Hésiode, ça veut dire la naissance des dieux, littéralement, un petit poème de 1000 vers, et les travaux et les jours du même Hésiode, où il est pas mal question de choses divines, et les grands hymnes qu'on attribue à Homère, dont l'hymne à Mercure, et certains d'entre nous ont eu la chance en parler hier, c'est-à-dire l'hymne à Hermès, bien entendu, tous ces textes-là ne sont pas des textes révélés. Ça n'est pas la Bible, ça n'est pas l'Évangile, ça n'est pas le Coran. Ce ne sont même pas les textes confucéens. Les confucéens sont-ils révélés, ça se discute. Ce ne sont pas des textes révélés. On peut les mettre en doute. Il n'y a pas d'inquisition en Grèce. Il n'y a pas d'institution religieuse universelle qui dise où est le vrai, où est le faux. Il y a eu des procès pour impiété en Grèce. Il y a eu des gens qui ont été condamnés et exécutés pour avoir été impies. Celui auquel on pense, évidemment, est Socrate. Mais, deux choses. La première, le jugement de Socrate est quelque chose qui est pour nous difficile à comprendre. Je vais essayer de dire deux ou trois petites choses là-dessus. Et l'autre chose, c'est que ce jugement est un jugement tout à fait exceptionnel. Généralement, les procès pour impiété dont on a des traces sont des procès contre des gens qui ont profané un objet sacré. Il est entendu que tel enclos d'olivier est consacré à telle déesse. Si un jour un individu a le malheur de couper un olivier là-dedans, il est impie et il sera puni. Il a dit des horreurs de la déesse, tant pis pour lui. Socrate lui-même est donc accusé de ne pas avoir, c'est très compliqué, de ne pas avoir respecté ou bien traité les dieux que la cité respecte ou traite bien. Ça ne veut pas dire littéralement qu'il ne croyait pas aux dieux. La traduction, l'inclinerait, c'est une traduction moderne fausse. Ça veut dire que si on est citoyen d'Athènes, on doit évidemment respecter les dieux, faire respecter un certain nombre de cérémonies, accomplir un certain nombre de gestes. L'essentiel est quand même le culte, de très loin. L'idée d'un croyant non pratiquant dans la Grèce antique est une idée à peu près impossible. Il faut connaître leur esprit, il faut connaître leurs usages. Ils ont une autre forme d'esprit. Alors, ce qu'on a reproché à Socrate, j'oserais dire, c'est un peu moins compréhensible, les plus anciens d'entre nous se le rappellent peut-être, ce serait de ne pas avoir enlevé son chapeau sur le passage d'un drapeau. Rappelez, le drapeau, symbole national, symbole infiniment respectable, et auquel on devait un certain nombre de gestes. Bien. Alors, je reviens à mon affaire. Il n'y a pas de texte sacré en Grèce. Il n'y a pas de dogme en Grèce. Beaucoup de discussions sont possibles. Socrate a passé pour athée. À tort ou à raison? À mon avis, à tort. Encore faudrait être sûr de comprendre ce que veut dire athée dans le grec du 5e siècle. Le mot existe, mais que veut-il dire exactement, je ne sais pas. Mais c'est pas ça qu'on lui reprochait. Ce qu'on lui a reproché, et l'accusation était un peu tordue, c'est de ne pas avoir inciter les gens à respecter les dieux de... Il y a une chose qui est très drôle. Quand Xénophon écrit un livre de souvenirs sur Socrate, il commence par dire « On a accusé Socrate de ne pas être religieux. C'est une erreur. La meilleure preuve, c'est qu'il allait à Delphes consulter l'oracle. » Ça, c'est un geste religieux. On en reparlera des oracles, parce que Dieu sait qu'il en est question, ne serait-ce qu'à cause de Tirésias, bien entendu. Alors, que veut dire cette idée qui traînait partout en Grèce à l'époque classique, idée selon laquelle Homère est un instituteur d'enseignements religieux, l'instituteur de choses religieuses, comme on apprend des choses sur les dieux en lisant. Alors, je veux d'abord rappeler que le texte sur les sirènes fait curieusement écho au texte peut-être postérieur qui commence la théogonie d'Hésiode. C'est un texte merveilleux. Hésiode donc se met en scène, à la différence d'Homère. Hésiode se met en scène, il raconte comment il était dans la montagne, du côté de Thèbes, et la montagne est haute, hein, on y fait du ski maintenant. Donc, il était dans la montagne, en train de garder ses vaches, et ses troupeaux, ou ses moutons, ou ses chèvres. Et elles sont venues. Elles sont venues, voilà. Toutes les neuf. Neuf filles superbes, bon, vous connaissez leur nom, elles sont venues le voir, puis elles lui ont dit, voilà, on va te dire l'histoire des dieux. Ils lui ont dit, nous savons des choses qui sont vraies, et nous savons aussi des choses qui ne sont pas vraies. Mais elle ne lui dira pas, elles ne lui diront jamais quelles sont les choses qui sont vraies, quelles sont les choses qui ne sont pas vraies. Alors, ce texte est un texte qui me terrifie et quand même pas mon chance. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que réellement Hésiode a vu les muses arriver? Ou est-ce que c'est une façon de parler? On ne saura probablement jamais. Bien. Les sirènes disent, sont probablement capables de dire des mensonges, en tout cas, leur promesse de dire des choses se termine, comme vous savez, par des ossements blanchis et des cadavres corrompus, pourris, quoi. Les muses aussi prétendent qu'elles peuvent raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et d'ailleurs, ça veut dire, il y a des discussions jusqu'à l'époque classique, il y a des discussions à n'en plus finir. Pourquoi est-ce que Homère dit que Aphrodite est la fille de Zeus ? Une très très gentille jeune femme, dont la mère s'appelle Dionée, c'est une dame respectable qui est dans l'Olympe. On n'en parle pas beaucoup de Dionée, mais c'est quand même quelqu'un de respectable. Puis Aphrodite est la charmante jeune fille que Zeus aime beaucoup, mais Zeus aime beaucoup. Zeus s'entend très bien avec ses filles. Alors que Hésiode dit tout à fait autre chose. Vous vous rappelez la naissance de Aphrodite dans Hésiode ? Alors ça, c'est horrible. Hein. Mais c'est important. Ça, c'est le fond de la théogonie. La théogonie, c'est une espèce de catalogue de dieux. Alors, vous avez des noms à n'en plus finir, fils d'un machin, fils d'un truc. Et en fait, il y a aussi un récit. Et le récit, c'est d'abord le chaos. Le chaos, ça veut dire... Pour Hésiode, c'est pas facile à savoir ce que ça veut dire. C'est le trou. D'où sortent les choses. Alors, d'où viennent-elles? En tout cas, le chaos, c'est pensé comme le... Le contraire, évidemment, de l'ordre. Et petit à petit, l'ordre naît. Et on lit l'histoire de l'ordre à travers la succession des dieux suprêmes. Le premier grand dieu, c'est une brute hébétée. Hein, c'est Ouranos, ce qui veut dire ciel. Ciel est au-dessus de terre. Terre est une grande déesse. Et Ouranos, ben, il fait des enfants. Si bien qu'un beau jour, Terre, Gaïa si vous préférez, suggère au plus malin de ses enfants, et Dieu sait qu'il est malin et même féroce, de s'arranger pour que ça s'arrête. Bien. C'est pour ça que on ne peut pas dire l'histoire en français. On ne peut pas dire l'histoire en français parce qu'il n'y a pas de mot en français qui soit un mot simple. Hein, ça sera ou bien un mot pour médecin, ou bien un mot qui passera pour... comment dirais-je... obscène, enfin, grossier, impossible. J'ai une histoire, vous savez, quand Jean Demain, l'auteur du roman de la Rose, de la seconde partie du roman de la Rose, Jean Demain, donc au XIIe siècle, XIIIe siècle, raconte cette histoire, il a employé un mot qui, à l'époque... Puis après, il a écrit mes 200 vers pour dire, écoutez, il faut bien que j'appelle les choses par leur nom. Bon. Donc, les couilles du Rhinos étant tombées dans la mer, ça a fait... Et alors, Botticelli appelle ça, c'est-à-dire une très très belle dame sur une coquille. Avec, voilà. Et ça, c'est Aphrodite. Homère et Hésiode ne sont pas compatibles. Ça ne gênait personne. Si vous voulez absolument trouver quelque chose de compatible, alors là, vous allez lire Le Banquet de Platon. Il y a un personnage qui essaye de se débrouiller. En fait, il se débrouille. C'est pas pour essayer de résoudre l'énigme, c'est parce que ça l'amuse qu'il y ait deux formes d'Aphrodite, et il joue avec pour inventer des choses qui l'intéressent. Bien. Il faut surtout éviter de prendre la mythologie grecque pour un récit vrai, un récit qu'on pourrait apprécier en sachant ce qui est vérité et ce qui n'est pas vérité, et en imaginant qu'il y a un discours unique sur la mythologie. Alors je sais bien qu'il faut des manuels de mythologie, il faut des dictionnaires de mythologie, et il faut apprendre de la mythologie aux petits-enfants, donc on a tendance à la résumer, à la simplifier au maximum. C'est un peu une erreur. La mythologie, c'est un monde d'une extraordinaire variété. Alors, nous l'avons entendu tout à l'heure, lu dans... Ah, oh, mais t'as pas tout dit. Mais c'est ton droit. À la tête du port se dresse un olivier aux longues feuilles.
Ça, c'est à la fin de ce que tu fais.
Au moment de l'arrivée de... Au moment de l'arrivée d'Ulysse à Ithaque, donc il débarque. À la tête du port se dresse un olivier aux longues feuilles. Tout à côté, il y a un antre agréable et sombre, consacré aux nymphes que l'on nomme Naïades. Au-dedans sont des cratères et des amphores de pierre où les abeilles construisent leurs rayons. Il y a aussi de très longs métiers de pierre sur lesquels les nymphes tissent des toiles peintes de pourpre, merveilleuses à voir. Là encore coulent des eaux continuelles et il y a deux entrées, l'une au nord laisse descendre les hommes, l'autre au midi plus divine, et par elle les hommes n'entrent pas, mais c'est la route des immortels. Bon, cette traduction d'une monsieur Serge Goffa, que je ne connais pas, est d'une extrême précision, hein, beaucoup plus que d'autres. Bon, alors, on peut toujours supprimer un vers ou deux. Bruno tout à l'heure a supprimé un vers ou deux, donc il n'avait absolument pas besoin. Alors, on a affaire à un texte qui est à peu près incompréhensible pour toutes sortes de gens. En fait, non, il n'est pas incompréhensible. On a écrit une caverne, et puis c'est tout. Bon, alors, évidemment, la tradition de l'appeler antre, parce qu'on dit antre, on dit génisse, on dit pas vache, on dit nef, on dit pas bateau, etc. Bien. Alors, dans cette caverne, il y a des cratères et des amphores en pierre. Dans ces amphores, les abeilles ont installé une ruche. Il y a des métiers à tisser en pierre, sur lesquels les nymphes tissent des toiles teintes de pourpre. Et il y a des eaux qui coulent constamment, et puis il y a deux entrées, l'une au nord, l'autre au midi. Alors, le texte en question a été assez longuement commenté, très longtemps après, à la fin de l'Antiquité, par un personnage qui s'appelait Porphyre, qui est un philosophe néo-platonicien. Donc on est... à la fin de l'histoire de la pensée pré-chrétienne, si vous voulez. Le christianisme existe déjà, mais il y a un certain nombre de gens qui résistent. Et alors, Porphyre essaie de commenter le texte en disant que c'est un texte extrêmement compliqué. Et qu'il me semble... C'est une bêtise... Où est la page 2 ? Ah ben, elle est là. Pourquoi ? Alors, il faut rechercher ce que signifie cet antre, dit l'antre des nymphes, avec sa double entrée. Cet antre à la fois agréable et sombre, tandis que ce qui est sombre n'est ordinaire aucunement agréable, mais plutôt effrayant. Ça commence comme ça. C'est agréable et sombre, ça fait deux mots qui ne sont pas compatibles, donc il faut d'abord expliquer ça. Philosophe, qui est d'abord un philologue, et qui regarde les mots tels qu'ils sont. Puis là-dessus, une avalanche de questions. Pourquoi, en outre, Homère ne dit-il pas simplement « dédié aux nymphes », mais par une attribution très précise à celle que l'on nomme naïade ? Pas toutes les nymphes, mais seulement les nymphes. Que signifient les cratères et les amphores où l'on ne dit pas qu'aucun breuvage soit versé, mais où les abeilles construisent leurs cailloux comme dans des roches ? Bien. Puis ce sont les métiers très longs placés pour les nymphes. Pourquoi ne sont-ils pas faits de bois ou d'une autre matière, mais de pierre, comme les amphores et les cratères ? Cela, il est vrai, est moins obscur que le reste. Mais sur des métiers de pierre, les nymphes tissent des toiles teintes de pourpre, ce qui n'est pas merveilleux seulement à voir, mais encore à entendre. Là, on est dans le jeu de mots. C'est merveilleux à voir, c'est la citation de Homère, mais lui, arrangé, il est merveilleux à entendre, c'est-à-dire impossible à admettre. Comment croire en effet que des déesses tissent des vêtements teints de pourpre dans un antre obscur sur des métiers de pierre, surtout lorsqu'on lit qu'on peut voir ces étoffes tissées par des déesses et la pourpre dont elles sont teintes. On peut les voir alors que l'antre est obscur. Ajoutez ce trait étonnant que l'antre a une double entrée. Pour lui l'essentiel, là-dessus j'ai mal. Une double entrée. L'une pour la descente des hommes, l'autre pour l'ascension des dieux, et que l'entrée des hommes est tournée vers le nord et l'entrée des dieux vers le midi. La difficulté n'est pas petite de comprendre pour quelle raison Homère a assigné le nord aux hommes et le midi aux dieux, et pourquoi il ne s'est pas plutôt servi du levant et du couchant, car dans presque tous les temples, les statues et les portes sont orientées au levant, et ceux qui y pénètrent regardent le couchant, lorsque face aux statues, ils apportent aux dieux leurs prières, ils apportent aux dieux leurs prières et leurs soins. Voilà. Monsieur ne sait pas que les tentes sont orientées vers Jérusalem. Non, les tentes sont orientées vers le soleil couchant, paraît-il. Bien. Alors, ce catalogue de questions me paraît extrêmement intéressant. On a affaire vraiment à quelqu'un de tout à fait sérieux et qui veut saisir tout. Il y a une hypothèse qu'il a complètement laissée tomber et pourtant il la récupère. Une hypothèse qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est qu'on a affaire à une tradition populaire, qu'on a affaire à une caverne de fées, et que dans cette caverne de fées, les bonnes gens ont vu des pierres qui avaient une drôle de forme, et qui ont dit, ça ce sont des cratères pour mettre du vin, ça on dirait des métiers, alors peut-être que les fées viennent la nuit tisser sur les métiers. Bon, ça pourrait être, Porphyre ne dit absolument pas. Et en fait, il le suggère, puisqu'il dit quelque part que, si ce n'est pas Homère qui a inventé tout cela, ceux qui ont établi cette caverne, avec son rituel, avaient probablement quelque chose en tête qu'il faut deviner. Bon, alors là-dessus, il donne une explication. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce qu'il en faudrait des heures et des heures. C'est très dense, un tout petit peu confus, parfois un peu hétéroclite, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est ce que Bruno avait gardé de toute cette description, c'est-à-dire la double entrée, l'une pour les dieux et l'autre pour les hommes, l'une pour les hommes au nord, l'une pour les immortels. La nuance est importante. Les immortels, c'est les dieux, bien sûr, aussi. Alors... il faut comprendre, dit Porphyre, et il n'est pas le premier à travailler comme ça. Pendant très longtemps, il y a eu des gens pour écrire la mythologie de cette manière. Il faut comprendre la chose allégoriquement. Homère vous dit, il y a des vases en pierre, il y a des tissus. Non, ça veut dire autre chose. Il faut les comprendre symboliquement.
Le mot symbole apparaît dans ce texte à peu près à chaque page.
Il faut les comprendre énigmatiquement. Ça, j'aime beaucoup ça. Le fait que... Qu'est-ce que c'est
ça ? Non, j'ai mal aux fesses, mais vous inquiétez pas.
Je ne m'inquiète pas. Il faut comprendre les choses énigmatiquement. Dans le grec de cette époque-là, entre énigme et allégorie, il y a quelque chose comme une relation possible. Et vous avez derrière l'idée, me semble-t-il, de ces oracles qui sont incompréhensibles. Vous allez à Delphes, vous consultez l'oracle, et l'oracle vous répond une formule à laquelle vous ne comprenez rien. Et il faudra apprendre à déchiffrer cette formule, il faut la traduire pour arriver à savoir ce que vous devez faire. Je ne parle pas seulement de ces formules qui sont ambiguës. Vous savez, quand Crésus est allé demander à l'oracle s'il fallait qu'il se batte contre Cyrus, il attaque donc les Perses, l'oracle lui a répondu « Si tu attaques les Perses, tu détruiras un grand royaume. » Parti. Pas penser que le royaume qui risquait de détruire, c'était le sien. C'est tout. Ça, c'est un oracle ambigu. Alors que vous avez des oracles qui sont simplement des oracles incompréhensibles. Je ne l'ai plus exactement dans la tête, l'oracle que les Spartiates ont obtenu le jour où ils n'arrivaient pas à entrer dans la ville de Tégée. Et Delphes leur a expliqué qu'il fallait aller chercher à un endroit où deux vents contraires, le crime bat le crime. Enfin, un truc invraisemblable. Ça voulait dire qu'il fallait aller chercher les os d'Oreste qui étaient enterrés dans une forge. Les deux vents contraires, c'était le soufflet de la forge. Le crime bat le crime, c'était le marteau contre l'enclume. Énigme allégorique. Et dans la recherche allégorique, il y a plus ou moins l'idée que quelqu'un a dit les choses de manière à ce que ne les comprennent que ceux qui peuvent. Allégoriquement, symboliquement, énigmatiquement, et il y a encore un mot que Porphyre en parle régulièrement, mystique. Et par mystique, là, en grec, il faut entendre, il n'y a aucun problème, il faut entendre initiatique. Les mystes sont ceux qui sont initiés à des mystères, c'est-à-dire à ceux qui découvrent par expérience quelque chose de neuf. Je ne sais pas où Aristote a écrit, on ne sait pas parce que c'est simplement une citation d'un autre auteur. Aristote a écrit cette chose absolument géniale. Au mystère d'Éleusis, on n'est pas instruit, on est disposé. C'est traduit littéralement. Parce que pendant longtemps, les gens ont cru qu'au mystère d'Éleusis, on allait, on subissait des conférences ou des sermons, et puis on sortait de là, et donc on a pris des choses neuves sur la vie dans l'autre monde, la survie de l'âme, etc., etc. Non, on n'est pas instruit. On a vu des choses, on a éprouvé quelque chose, c'était probablement de l'ordre de la cérémonie, incontestablement, il devait y avoir un élément de spectacle, et puis on sort de là. On est autre, on a été transformé. Et je crois qu'il n'y a pas de miracle. Il était interdit aux mystes de parler des mystères d'Éleusis, mais ils ne pouvaient pas en parler. Parce que s'ils avaient vécu, ils auraient pu vaguement raconter des choses, mais ça ne correspondait pas à ce qui s'était réellement. Ce qu'ils auraient raconté ne correspondait pas à ce qu'ils avaient réellement vécu. Alors donc, Porphyre entreprend une interprétation allégorique du texte en question, et précisément il insiste sur cette idée d'initiation. L'antre des muses, alors l'antre des muses, c'est d'un certain point de vue, c'est le terme traditionnel. Si vous voulez lire le texte, il est sur internet, hein, vous faites sur Google « antre des muses » et vous l'avez tout de suite. Et après, vous en avez pour des heures et des heures. Ah, il n'est pas long, hein, il y a 10 pages. Mais il ne sera plus. Hein. Peut-être qu'au fond, il faut ça. Occuper la vie à ça. Il y a eu des tas de commentaires. Donc, je retiens deux points. La première chose, c'est que l'antre des muses est une image du monde. C'est une image du monde parce que c'est obscur, comme le chaos. Et on imagine que puisqu'on peut en sortir et qu'il y a déjà des formes à l'intérieur, c'est un chaos qui est en train de s'organiser. Ça n'est pas complètement une... Là, je glose assez librement. Ça n'est pas complètement une caverne sauvage. Il y a dans cette caverne des éléments d'ordre, des métiers à tisser, des vases, etc. Et ça, j'y tiens parce que cette image du chaos, elle est, je crois, absolument fondamentale dans la pensée grecque, et depuis toujours, hein, depuis, en tout cas certainement depuis Hésiode, même si Hésiode ne pense pas réellement le chaos de manière logique, comme le penseront plus tard les grands bonshommes d'avant Socrate, Empédocle et autres. J'ai pas fini mon histoire, je me suis arrêté au moment où Aphrodite apparaissait dans la mer, mais vous savez que après donc Ouranos, cette espèce de brute, il y a eu Cronos, son fils. Cronos, ça ne veut pas dire le temps. C'est beaucoup plus tard qu'on a fait une espèce de calembour là-dessus. Et pour faire le calembour en question, il faut confondre Cronos et Chronos, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon. Alors, Cronos a donc régné sur les dieux, et alors lui, pour éviter, sachant ce que les fils sont capables de faire à leur père, il a mangé ses enfants pour être tranquille. Vous connaissez, il y a Goya a peint ça de manière absolument extraordinaire. Et il ne les a pas tous mangés, le petit chevreau a été sauvé. C'est l'histoire du loup qui mange les chevreaux, bien sûr. Et alors, Zeus a été épargné, et Zeus, après, est arrivé à vaincre Cronos, et donc à établir une monarchie qui est une monarchie beaucoup plus raisonnable, une monarchie qui fait déjà apparaître la justice. Ouranos ne savait pas ce que c'était, et Cronos pas davantage. Peut-être il savait, mais il n'en voulait pas. Donc, si vous voulez, l'histoire des dieux est racontée comme l'histoire d'une accession à la civilisation. Après quoi, d'ailleurs, l'histoire des hommes a été racontée de la même manière. Je vous renvoie à un texte, à mon avis, absolument bouleversant, qui est le grand discours de Prométhée dans le Prométhée enchaîné des Chimes. Prométhée rappelle ce qu'il a appris aux hommes. Bon, il leur a donné le feu, c'est entendu. Mais c'est un peu symbolique de tout ce qu'il leur a appris. Et finalement, ce qu'il leur a appris de plus beau, c'est encore, bien entendu, l'alphabet. Mais ça, c'est une autre affaire. Bon, alors, première chose, si vous voulez, l'antre des nymphes, on le lit après coup, comme si Homère avait voulu dire, et peut-être a-t-il voulu dire, je n'en sais rien, on le lit après coup comme étant une image du monde et de ce chaos qui se met en ordre. Et puis surtout, on le lit comme l'image de la vie, du passage de la vie. Alors, il y a derrière deux images. Hein. La première image est une image qui n'est pas d'Homère du tout, qui est une invention postérieure et qui a beaucoup intéressé Platon, bien sûr, qui est l'image de la métempsycose. Nous descendons en bas, dans le monde invisible, dans le monde d'Hadès. Et
pas le
dans...
monde d'Hadès.
Pardon ?
Pas le monde d'Hadès. Hein.
Comment pas le monde d'Hadès ?
Écoutez la description de Homère. Il ne faut pas confondre les ombres et les âmes.
Oui, mais ça fait une autre affaire. Pas plus d'une minute. Alors, je parle d'une manière très générale. Hein. Dans le monde d'Hadès, nous descendons. C'est la fin de la République. Hein, c'est le fameux mythe d'Edéal arménien. Vous descendez donc, ou fils d'Arménios. Vous descendez. Nous allons tous descendre. Hein. Et puis, nous allons oublier tout ce que nous avons vécu, et puis après, nous allons choisir notre prochaine destinée. Alors, si nous avons vécu de manière à peu près raisonnable, nous avons des chances de nous trouver assez raisonnables pour choisir une destinée de sage. Et si nous avons vécu de manière un peu irraisonnée, nous aurons envie d'être tyran, d'être très riche et très puissant, et de pouvoir écraser toutes les rébellions. Et puis nous serons très malheureux. Bon. On vit comme ça. Alors, il n'y a pas de métempsycose en animal. Hein. Métempsycose, Le récit donc de Platon, il est appliqué par Porphyre à cette histoire d'entre des nymphes. Les hommes entrent et ressortent. Et alors, ça c'est une première version. Et la seconde version, qui est beaucoup plus intéressante, c'est celle de la destinée d'un individu qui entre dans l'ombre, dans la vie, et qui en ressortira parfait, ayant éprouvé dans la vie ce qui devait l'amener à une relative perfection. Et c'est pour ça, dit Porphyre, que Homère, qui ne se trompe pas, n'a pas dit « ce sont les dieux qui sortent par la porte du sud », il a dit « ce sont les immortels ». Parce qu'en fait, ceux qui sortent par la porte du sud sont tous les hommes qui sont arrivés à connaître ce qu'on a appelé beaucoup plus tard l'apothéose, hein, devenir Dieu. Je veux brûler pour m'envoler aux cieux tout l'imparfait de cette écorce humaine, m'éternisant comme le fils d'Alcmène qui, tout en feu, s'assit entre les dieux. Ça, c'est Ronsard, une fois de plus. Ronsard disant ça, l'écrivant quelque chose, on ne parle pas loin d'ici, hein. C'est l'histoire de d'Héraclès. Hein. Je veux.
C'est en face. Hmm. Ronsard, c'est en face.
Oh, il y a eu plusieurs maisons. Je veux brûler, donc, pour m'en voler aux cieux, tout l'imparfait de cette écorce humaine. Nous sommes des êtres doubles, comportant une écorce et un cœur, et on brûle l'écorce, et le cœur, qui est une âme, monte aux cieux, et comme Héraclès, on va s'asseoir entre les dieux. Alors, vous savez que Héraclès, en plus, effectivement, est mort sur le bûcher. Il a raconté ça très bien, mais c'est pas pour aujourd'hui. Bon, donc on peut parler d'elle. Alors, voilà. Apothéose. Donc, est-ce que Ulysse serait le modèle de cette destinée qui conduit à travers l'ombre de l'antre, qui conduit de la porte du nord, par laquelle on descend, à la porte du sud, par laquelle on peut sortir quand on est immortel, c'est tout à fait la pensée de Porphyre. Et alors, j'en ai tout de même un petit bout, si je le retrouve. Dans cet antre, dit Homère, il faut se défaire de tous les biens du dehors, se dépouiller, prendre l'extérieur d'un mendiant, frapper son corps, rejeter tout le superflu, écarter même les sens et alors délibérer avec Athéna, assise avec elle au pied de l'olivier, pour savoir comment retrancher toutes les passions qui tendent des pièges à l'arbre. Ce n'est pas sans raison, à mon avis, que Numénius prétend que dans l'Odyssée, Homère représente par Ulysse l'homme qui passe par tous les degrés successifs de la génération, disons, de la vie, et parvient ainsi chez les étrangers ignorants de la mer et de toute tempête. Bon, je vais m'arrêter là, si vous voulez, pour cette interprétation de l'antre des nymphes, modèle de qui fait de toute l'Odyssée, d'un seul coup, un texte initiatique. Alors, il ne faut pas s'y tromper. Hein. Je vous ai dit en commençant, ce sur quoi j'ai surtout travaillé, ce sont sur les images d'Homère à travers l'histoire. Hein. Il ne faut pas s'y tromper. On dit les Grecs. Ouais. Les Grecs, la civilisation grecque pré-chrétienne, pour aller en prenant un mot simple, dure 15 siècles. Ce ne sont pas les mêmes. Beaucoup de choses ont changé. À la fin de l'Antiquité, du 4e siècle, je crois, à la fin de l'Antiquité, on estime nécessaire d'allégoriser la mythologie, de lire la mythologie comme une théologie allégorique, de comprendre Homère comme un théologien, et de comprendre que Homère dit de manière cachée des secrets. Bon, ce n'est pas des secrets très difficiles, hein, mais c'est comme ça. On raconte l'histoire de l'antre des nymphes pour que les gens comprennent ce qu'il en est de la destinée des âmes. Alors il y a un autre point auquel je voulais en venir, que j'avais annoncé, et qui va s'attacher précisément là, sur l'idée que l'esprit grec a beaucoup changé et qu'un certain nombre de choses que Homère dit ne sont plus tout à fait compréhensibles plus tard. Très précisément, mais vous l'avez entendu, les enfers n'ont rien à voir avec ce que nous avons peut-être coutume d'entendre par ce mot, que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas. Vous lisez le chant 11 de l'Odyssée, hein, dont Bruno a dit une partie, et puis après vous allez lire le chant 6 de l'Énéide, Virgile, c'est écrit en latin, 1er siècle avant Jésus-Christ. Virgile a évidemment voulu donner à ses compatriotes une épopée à la manière d'Homère, en latin. Les différences entre la poétique d'Homère et la poétique de Virgile sont immenses, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un point très précis qui relève d'autre chose que de la poétique. Dans les enfers tels que Énée va les visiter, armé du rameau d'or et accompagné de la Sibylle, dans ces enfers, comme beaucoup plus tard dans l'autre monde que Dante raconte dans la Divine Comédie, il y a les méchants et les bons. Les méchants sont punis de différentes manières et les bons vivent aux Champs-Élysées. Ils sont heureux dans une douce lumière. Eh bien, dans Homère, ce n'est pas le cas. Dans Homère, ce n'est pas le cas. Et quand on tombe sur Achille, Achille dit, j'aimerais mieux être ouvrier agricole. Non, il dit ça en termes plus anciens. Il préférait voir la lumière du sol. Parce qu'aux enfers, on ne voit pas la lumière du sol. Les enfers, c'est, du point de vue des humains, une espèce de dégradation de la vie. Ça ressemble pour nous, là je vais faire de l'allégorie, ça ressemble pour nous au sentiment que nous avons que les hommes petit à petit disparaissent de la mémoire. Comment on dit l'autre dans sa grande et belle rhétorique de style très classique, on demande d'où sont-ils, rois, dans quel qu'il. Puis votre souvenir même est enseveli, le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. C'est comment après ? Ça s'est perdu. Ça a été très célèbre. Seul, pendant ces nuits où l'orage est vainqueur, vos veuves au front blanc, lassent de vous attendre, pensent encore à vous, en remuant la cendre de leur foyer, de leur cœur. Ah, mais ils savaient son métier, hein. Où sont-ils les marins perdus dans les lignes noires, aux flots que vous savez, de lugubres histoires, flots profonds redoutés des mers à genoux, vous voulez raconter en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous montez vers nous. Oui. Victor Hugo, Océanodox. Ça s'est perdu. Ça se perd. La cendre de leur foyer. Et en moderne, faisant probablement un contresens, je lis le 11e chant de l'Odyssée comme cela. Les personnages, petit à petit s'effacent, petit à petit disparaissent. Bon, ils sont impalpables, d'abord. Hein. Vous voulez embrasser votre mère, non. Et on a déjà ça dans l'Iliade. Et puis, ils sont des idoles, des images. Peut-être simplement des choses, peut-être simplement des mots, simplement. Mais là, ce que je dis est très, très, très moderne. Alors maintenant, je pourrais jouer l'historien, si vous voulez, mais c'est un historien qui est aussi dans une drôle de position. À l'époque où Homère écrit, on a des témoignages dans une autre langue que Homère ne connaissait pas, où on parle aussi du lieu en bas. On appelle ça le Sheol. Lisez les psaumes. Si vous lisez les psaumes, c'est aussi bien que moi que l'idée d'une survie éventuellement heureuse, éventuellement bienheureuse des morts est une idée relativement récente dans la pensée juive. Et qu'à une certaine époque, on n'imaginait pas d'autres survies pour l'âme, c'est dans le livre de Job, ça apparaît aussi très régulièrement, que cette espèce de vie diminuée, de vie qui poussiéreuse, de vie qui n'existe pas. Alors, vous me direz évidemment, dans le chant 11, Bruno n'a pas lu le texte, mais c'est, n'a pas dit le texte, mais c'est pas grave, évidemment, je vais dire pourquoi. Dans le chant 11, il est aussi question de quelques criminels célèbres. Bon, il est question de Tantale. Tantale, et la punition de Tantale, vous savez, celui qui ne peut pas cueillir les fruits alors qu'il a faim, ni s'approcher de l'eau alors qu'il a soif, elle est connue, et Homère dit là-dessus tout ce qu'on peut dire. Bon. Tantale est effectivement un criminel d'une taille assez extraordinaire, je n'ose pas vous raconter tellement c'est affreux ce qu'il a fait. Bon, alors il y a aussi Sisyphe, enfin d'où, mais ce sont des êtres exceptionnels, ça ne veut pas dire que dans l'enfer de Zeus, dans l'enfer d'Homère, c'est-à-dire dans le royaume d'Hadès, on a une case spéciale pour tous les criminels et qu'on les y punit avec des chaudières, des diables et des fourches. Non, 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 non. D'une manière générale, il n'y a pas vraiment d'espoir d'une survie. Ou tout au moins cette survie qui se défait petit à petit, il n'y a pas de remède. Sauf peut-être un remède. C'est une formule qui revient assez régulièrement, rarement, mais régulièrement, dans l'Iliade et un tout petit peu dans l'Odyssée. On parlera de nous. On parlera de nous, les peuples, les hommes à venir. Ceux qui viendront, ceux qui seront littéralement, ceux-là parleront. Une très belle scène, c'est dans l'Iliade, très belle scène entre deux personnes que j'aime particulièrement, qui sont Hector et Hélène, et ils se disent qu'ils sont mal partis l'un et l'autre, ça va se terminer très mal et pour l'un et pour l'autre, mais peut-être on parlera de nous, les gens à venir parleront de nous. Parce qu'il y a un poète. Et finalement, quand Alexandre à Troie, ou je ne sais plus où, a vu le tombeau d'Homère, il a dit Achille avait bien de la chance. De la chance. Moi, je n'ai pas de poète. Il est venu le roi de trèfle quand même, c'est pas mal. Bien. Alors, Bruno n'a pas dit tout le chant 11. Le chant 11 est un chant qui a été particulièrement victime de la science des savants. Toutes sortes de gens ont dit, bon, d'accord, on va aux enfers pour voir Tirésias. On parlera de Tirésias une autre fois. Tirésias annonce la suite des opérations et permet de organiser le récit finalement. Bon. Évidemment, il y a l'épisode avec la mère, celui-là, qui est tellement beau, on va pas le couper, toi. C'est un peu comme ça. C'est très amusant la façon dont les savants raisonnent. Les gens qui découpent l'Iliade en petits morceaux, qui vous disent l'Iliade, oui, bah, au début, ils s'engueulent entre Agamemnon et Achille, et puis après, ils se réconcilient, puis ils portent deux ou trois petites choses, deux ou trois qui expliquent. Et puis, donc le chant 6, non, le chant 6, c'est pas vrai. Le chant 5, c'était rajouté après. À la fin du chant 6, il y a la dernière rencontre entre Hector et Andromaque. Ils ne savent pas qu'ils ne se reverront jamais. Quand ils se reverront, Hector sera mort. Alors les savants, très savants, et qui savent tout, ils disent ah, oui, mais quand même, la scène entre Hector et Andromaque, c'est tellement beau, c'est tellement de merde quand même. Non, il y a des gens vraiment qui disent des arguments intéressants. Bon, alors, il y a dans ce... Entre-temps, il y a un épisode qui est très rigolo, qui est l'épisode d'Elpénor.
Elpénor est un des compagnons d'Ulysse, et chez Circé, il a pris une cuite, et le jour où on s'en va pour aller aux enfers, il se réveille en sursaut, il oublie qu'il est sur le toit, et il se précipite, il tombe du toit, il pompe, il mord. Et alors quand Ulysse a creusé son trou, mis du sang qui appelle les morts, parce que, bah oui, ça n'est bien quoi, entendu, les morts qui sont rien du tout, peuvent parler s'ils boivent du sang. Non. Donc Elpénor arrive, et puis il y a des explications entre Ulysse et Elpénor. Et Ulysse lui dit, mais comment t'as fait pour arriver si vite? C'est bien, c'est pas indispensable. Puis après, bon, je vous le disais hier, après la mère d'Ulysse, on voit arriver toutes sortes de dames, et puis le récit s'arrête. Et le récit s'arrête, et Alcinoos dit à Ulysse, mais, est-ce que par hasard tu peux arriver à voir Achille et Agamemnon? Et Ulysse dit si, absolument. Et là, moi, je suis persuadé, bon, c'est complètement gratuit de ma part, je suis persuadé que, dans le fond, il se passe quelque chose comme ça. Le 27 juillet 813 avant Jésus-Christ, Homère est arrivé dans le palais d'un seigneur, petit palais, hein, seigneur qui lui dit, vous me raconterez votre histoire là, après dîner. Pas trop long, hein. Vous racontez tout. Hein, je veux entendre parler de tout depuis le début jusqu'au meurtre des prétendants. Mais alors, 4 séances, hein, 2 heures chez moi. Puis alors, le bonhomme auquel vous avez commenté des commentaires, vous l'enverrez promener, on m'a rapporté. Bien. Et le Seigneur a fait ça, et Homère a fait comme ça, et Homère s'est dit, bon, alors le 11e chant, il l'appelait pas le 11e chant, mais ça fait rien, il est un peu longuet, donc on va faire sauter. Ça. Bon, j'y reviens. C'est ce qu'a fait Brunet. Il n'a pas dit des extraits de l'Odyssée, il a raconté l'Odyssée une fois sous une forme particulière. Ce que l'on entend, ce que nous entendons ces jours-ci, c'est comparable à ce que vous trouvez sur un disque. St. James Infirmary, enregistré tel jour en tel lieu. Y a-t-il une vraie version de St. James Infirmary par Armstrong? Y en a-t-il une vraie? Des gens qui vous publient des enregistrements de jazz vous disent cette version-là a été enregistrée ce jour-là à 7 ans. C'en est une parmi d'autres. Alors, vous pouvez en préférer une, mais c'en est une parmi d'autres. C'est un texte à plusieurs dimensions. Ça relève en partie de l'improvisation. Et vous savez aussi bien que moi que l'improvisation ne consiste pas à partir de zéro. Bon, ça consiste à réorganiser des éléments. Bon. Alors voilà, je crois, il faut y revenir pour comprendre ce qui est en cause. Voilà pourquoi il est tout à fait possible de ne pas dire une partie de ce chant 11. De ce chant 11 qui pose d'énormes questions. Il pose des questions sur le sort des humains, sur la survie des humains, sur l'état de cette eidolon, de cette idole, de cette image qui peut-être est en train de se défaire, sur la présence des morts, sur le rapport entre la mort et les songes, puisque somme toute la rencontre avec les morts est raconté sur le modèle de la rencontre avec des personnages en songe. Vous trouverez dans l'Iliade la scène où Patrocle apparaît à Achille, donc juste après sa mort. Alors, il est à peine mort, il n'est pas encore dans l'Hadès, puisqu'on n'a pas pu encore accomplir les rites. Vous savez que si les rites ne sont pas accomplis, les morts ne peuvent pas descendre dans le lieu invisible. Je dis le lieu invisible, c'est une traduction littérale de l'Hadès, et les Grecs en étaient parfaitement conscients. Hadès, c'est à la fois l'invisible et c'est le frère de Zeus. Tout ça. Et les morts ne peuvent pas descendre dans le lieu invisible si le... C'est pour ça, soit dit entre nous, que
Vous connaissez l'histoire d'Antigone. On veut empêcher d'enterrer ce personnage parce qu'il est traître à sa patrie. C'est vrai que on peut en vouloir à Polynice d'avoir fait ce qu'il a fait. Mais ne pas enterrer quelqu'un, il faut être fou pour avoir cette idée-là. Et Créon est un personnage dangereux. Il veut punir Polynice, alors il ne veut pas l'enterrer. Ça va être affreux, mais toute la ville va pourrir. Alors pour avoir l'idée que Antigone raconte le dialogue philosophique sérieux entre les lois de la cité et les lois des dieux, pour avoir cette idée-là, il faut être philosophe et allemand en plus. Ça fait rigueur. Ah bon. Alors, je reviens sur mon affaire. Patrocle n'est pas encore enterré. Patrocle vient voir en rêve Achille. Et c'est là que se reproduit la scène avec la mère. Je veux dire que Patrocle essaye d'embrasser. Achille essaie d'embrasser Patrocle. C'est pas possible. Il est déjà à l'état d'image. Il est au cinéma, il est en surimpression. Voilà. Donc cette question du rapport entre la mort et les songes est une question qui se pose constamment autour de ce chant 11, et c'est une question d'exposer à Homère, et c'est une question que nous n'avons peut-être pas résolue, je ne sais pas. Mais maintenant, tout ça se passe où ? On a beaucoup dit, les gens qui savent tout, on dit le chant 11 a été surchargé d'interpolations. La meilleure preuve, c'est que, en fait, Ulysse vient sur le bord du monde, à l'entrée peut-être des enfers, et que la suite du chant se passe au fond des enfers, sans qu'on ait vraiment dit qu'il avait pris l'escalier pour y descendre. Quand vous regardez le texte tout à fait dans les coins, il y a des moments où on vous dit très clairement qu'on... J'aurais du mal, quant à moi, à couper de telle manière qu'on puisse ne garder que ce qui dit qu'il n'est pas allé dans les anciens. Parce que, de toute façon, le monde en dessous est un monde où on a enterré tout le passé. C'est dans ce monde-là qu'on a enterré Cronos, qu'on a enfermé Cronos. C'est dans ce monde-là qu'on a enfermé les titans. Les titans sont les frères de Cronos. Et les titans se sont révoltés contre Zeus, c'est l'épisode essentiel de la théogonie de la naissance des dieux d'Hésiode, la lutte entre les titans et Zeus. Les titans étaient disposés manifestement à rétablir une espèce d'anarchie contre le gouvernement assez centralisé et un peu rude, mais juste de Zeus. Les titans ont été battus parce que Zeus a la foudre et parce qu'il a des auxiliaires qui sont aussi des espèces de monstres assez curieux, et les titans ont été enfermés en dessous. Cette pensée de l'en dessous est au moins aussi importante que la pensée du chaos. Nous vivons dans un monde qui est en ordre, où on voit la lumière du soleil. Il est en ordre parce qu'il a été bien savamment partagé. Les trois frères se sont partagés les choses. Poséidon à la mer, Zeus à le ciel, la terre c'est nous, puis en dessous il y a Hadès. Nous vivons dans ce monde-là, mais cet ordre-là qui a été acquis doucement, est fragile. Et je crois que c'est ce qui est le plus difficile pour nous à comprendre dans ces pensées anciennes. Les Égyptiens fonctionnaient un peu comme ça. Le monde est fragile. Nous commençons à y croire. Nos ancêtres au XIXe siècle n'étaient pas seuls du contraire. C'était Galilée, on avait inventé la chimie. Le monde est fragile. Et ça, c'est fondamental dans la pensée grecque et dans la pensée d'Homère en particulier. Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Criset, Paul Valéry, après la guerre de 14. La guerre de 14 a été un drôle de choc. Et j'essaie de me représenter un de mes vieux confrères, les professeurs d'autrefois, ils étaient professeurs, ils étaient prêtres au temple d'Héliopolis. J'essaie de me représenter un de ces vieux messieurs tombant sur le texte de Paul Valéry. Alors d'abord, ça m'étonnerait qu'on ait une moustache. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de petit Européen qui croit avoir inventé une chose extraordinaire ? Les civilisations sont mortelles ? Pour lui, c'est une découverte. Mais enfin, ça fait 1500 millions d'années qu'on sait ça, nous autres Égyptiens. Bon. Alors cette aventure, une petite plaisanterie, vous la trouvez dans Platon. Les Égyptiens disent à Platon, vous autres Grecs, vous êtes des gamins. C'est pas tant des gamins que ça, parce qu'eux aussi, ils savent depuis très longtemps que le monde est fragile. Et que contre la fragilité du monde, il n'y a que des réponses qui, plus ou moins, sont liées au langage. Il y a une réponse par la poésie, quand elle est grande qualité, et puis il y a une réponse par l'oracle. Mais l'oracle, on en parlera demain, si vous voulez. Merci.